C'est le dernier temps, bien sûr, de ce colloque. Une table ronde, classiquement, un peu d'ouverture sur des enjeux, mais qu'on a déjà plus qu'esquissé, mais pour lesquels on n'a pas encore eu le temps de, malgré tout, rentrer dans le détail. Donc, je vous présente rapidement les quatre intervenants. Donc de cette table ronde. Alors, ce sont quelques éléments biographiques que je leur ai demandé de me transmettre. S'ils ont besoin, ils en diront un peu plus, bien sûr, sur leurs fonctions. Alors, bien sûr, Alain Marinos, à ma gauche, je pense que déjà un certain nombre de personnes dans la salle le connaissent. Architecte et urbaniste de l'État, architecte des bâtiments de France, entre autres dans le Finistère, en Loire-Atlantique. Je ne veux pas tout reprendre parce que le CV, je n'ai pris que la version condensée du CV d'Alain Marinos et je veux en extraire quelques éléments. Voilà, directeur de l'école de Chaillot, je terminerai pour ses fonctions avant d'arriver à d'autres fonctions aujourd'hui, inspecteur général de l'architecture et du patrimoine au ministère de la Culture. Donc voilà, bon, quelqu'un qui connaît bien la maison du ministère de la Culture. Et puis aujourd'hui, entre autres, et je sais qu'il va intervenir en particulier, mais pas que, voilà, délégué national de l'Association des petites cités de caractère de France. À ma droite, Philippe Schmitt, qui était particulièrement concerné par le sujet que mes collègues viennent d'aborder, puisqu'il est donc bien sûr diplômé en géographie et en aménagement du territoire, secrétaire général de l'Assemblée des communautés de France, que tu as rejoint en 2005, de ce que je vois, et en charge en particulier des questions liées à l'urbanisme, l'aménagement commercial et aux questions foncières. Voilà, puisqu'il y a des choses à ajouter, Philippe. Tout à l'autre bout, Grégoire Bruzelier, on ne peut pas le louper parce que même quand il est assis, il est grand. Voilà. Donc Grégoire Bruzelier, donc architecte formé à Paris-Malaquais, mais aussi quelques années plus tard diplômé de l'école de Chaillot. Et ce qui l'a amené à exercer effectivement des fonctions dans sous des étiquettes et avec des casquettes différentes, puisque par exemple de 2012 à 2014, tu as travaillé à l'UDAP d'Indre-et-Loire en tant qu'adjoint au chef de l'UDAP. Ensuite enchaîné avec une activité en cabinet privé, donc qui n'est pas totalement abandonnée, je ne sais plus, tu préciseras. Voilà. Et puis aujourd'hui, et c'est aussi et principalement à ce titre-là qu'il est là, tu es à l'agence d'urbanisme de Tours. J'en profite pour mentionner qu'effectivement on avait échangé en amont du colloque avec la Fédération nationale des agences d'urbanisme. On avait dès le départ cherché à mobiliser Corinne Langlois, mais vous le savez, elle a été appelée vers d'autres fonctions à la direction générale de l'architecture au ministère. Voilà, et donc on est ravi d'avoir un représentant des agences d'urbanisme à cette table ronde. Et puis je me suis permis de garder à la table ronde Noé Wagener, que vous avez vu en fin de matinée, parce que j'avais un goût de trop peu par rapport à ses interventions. Il ne remplace pas Monsieur Vignal, député de l'Hérault, qui était annoncé dans une première version du programme et que nous excusons, car depuis 15 jours, il nous a informé que bien sûr, il ne serait pas là aujourd'hui en raison d'un déplacement avec la présidente de région. Donc voilà, donc on regrette bien son absence. Noé Wagener n'est pas là pour le remplacer. Je lui ai demandé de rester un peu comme grand témoin. Il n'est pas un acteur de l'urbanisme directement et de l'aménagement ou du patrimoine, mais voilà. Voilà, alors je vous propose d'attaquer tout de suite donc avec ces questions qu'on a déjà un peu abordées, mais dans lesquelles il faut rentrer. D'accord. Voilà. Oui, alors, il n'y a pas d'ordre, mais je propose de commencer surtout par un thème. Bon, je pense qu'il y a deux thèmes qui ont des raisons de prédominer dans nos échanges. Il y en aura sûrement quelques autres à aborder, mais c'est celui du phénomène éventuel de vase communicant entre sites patrimoniaux remarquables issus de la loi LCAP dans le cadre de la nouvelle procédure prévue par la loi LCAP et éventuellement donc PLU, PLUI patrimoniaux. Voilà, donc quel peut être l'impact de cette nouvelle version des sites patrimoniaux remarquables, donc dans le cadre de cette fusion entre secteur sauvegardé et AVAP, et bien sûr dans le cadre de cette procédure centralisatrice, il n'y a pas de jugement de valeur, bien sûr, en disant ça, mise en place par la loi LCAP, quel peut être l'impact de cette nouvelle politique sur les PLU patrimoniaux? Donc je propose de laisser la parole à Alain Marinos pour en parler, pour commencer. Mais bien sûr, la règle, c'est que après chaque intervenant peut se saisir de la question.
Voilà. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Pour aller plus vite, je vous ai préparé quelques images, 5 ou 6. Voilà, la première, c'est le tableau. Ah, il ne s'affiche pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est des images avec trois images de constat, trois images sur les enjeux. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus patrimonial, les SPR, c'est une étape dans un processus. C'est absolument pas une étape finale. Je pense que l'étape finale, on va la voir se dessiner progressivement. Et les images seront là dans 5 minutes. Ah ben voilà, elles sont là. Pour l'illustrer. Alors voilà, en matière de patrimoine, on a aujourd'hui trois grands paquets, si je puis dire, trois grands groupes. Le premier, c'est les monuments historiques, avec une stabilité depuis la loi de 1913, c'est-à-dire qu'autour du thème monument historique, la loi a été amendée, modifiée parallèlement, en marge, complété, enrichi, mais l'outil reste toujours le même, hein, c'est les monuments historiques. Les sites, c'est pareil, hein, 1930, on a, malgré un enrichissement, des petites modifications, etc., on a quand même une ligne conductrice stable. Et puis alors après, depuis 83, on a le patrimoine architectural, urbain et paysager. Alors là, quel bordel. Parce que si on regarde bien, on avait les ZPPAU. Après, c'est une étape importante, hein, d'élargissement au paysage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais d'un seul coup, on est parti très très loin. On l'a un petit peu oublié. Puis alors après, des hésitations. Alors j'ai noté des mots, des noms, hésitations, querelles, piétinements, confusion, instabilité. C'est en tous les cas ce que beaucoup d'élus ont remarqué. C'est-à-dire qu'un élu qui s'est engagé dans une ZPPUP, et puis après on leur dit, ah ben non, il faut transformer en AVAP, mais est-ce qu'il faut obligatoirement transformer le document en un autre document? Ben, on ne sait pas très très bien, mais vous pouvez quand même garder celui-là, mais il faut quand même le modifier, il faut rajouter de l'environnement. Bon, voilà, confusion, instabilité, incertitude. Et je pense que c'est le ressenti, en tous les cas, moi maintenant qui suis de l'autre côté de la barrière, mais enfin j'ai jamais été véritablement... j'ai toujours été proche des élus, je vois qu'il y a une certaine lassitude. Et en plus, ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est-à-dire un recentrage avec ce passage obligatoire en commission nationale, et puis ben, ce découragement, faut appeler un chat un chat, le découragement d'une administration centrale qui estime qu'il ne faut pas en faire trop en matière de patrimoine. Alors qu'il y a une pression terrible. Derrière, il y a une demande de patrimoine qui est de plus en plus large, photo suivante si c'est possible, qui est de plus en plus large et qui impacte de plus en plus sur le territoire. J'ai mis 4 photos. Vous avez le département, j'aurais pu mettre n'importe quel département breton ou de l'Ouest, j'ai mis le Morbihan avec, vous voyez, ce sont les servitudes au titre des monuments historiques, des sites, enfin du patrimoine. Vous voyez la couverture que ça fait du département. À droite, bah, c'est chez vous, c'est entre Angers et Tours, avec des choses assez intéressantes, des superpositions et des incohérences totales entre les protections monuments historiques, les protections AVAP en jaune, secteur sauvegardé, il y en a relativement peu. Le patrimoine mondial qui est en rose, qui vient se superposer mais qui n'est pas de la compétence de l'État et qui est cependant de la compétence de l'UNESCO, mais dont la loi LCAP a donné la compétence du plan de gestion aux communes, tout en se dégageant, bien sûr l'État s'est dégagé de sa responsabilité en la matière, d'une certaine manière, je vais un peu vite mais c'est quand même ça, et tout ça qui vient superposer. Vous voyez que dans le Maine-et-Loire, on a fait en jaune pas mal de ZPPP, mais on n'en a pas fait dans l'Indre-et-Loire, donc ça c'est amusant. Mais on a fait des ZPPP et puis après on s'en mord les doigts parce que à l'intérieur des ZPPP on arrive à peu près à gérer les choses, mais ça reporte tous les problèmes à l'extérieur. À l'extérieur on est patrimoine mondial et la cohérence elle se fait par la mission Val-de-Loire qui fait ce qu'elle peut et qui fait les choses très bien, mais c'est pas toujours évident. L'Ouest parisien, Saint-Germain, Versailles, Paris, je pense que ça parle tout seul. Hein. Voilà, c'est quelle est la responsabilité en matière d'urbanisme du maire en la matière quand il y a autant de servitudes qui viennent s'appliquer sur un territoire pareil. Et puis alors je ne vous parle pas de Fontainebleau ou quelques communes alors là qui elles sont complètement noyées sous les périmètres où il ne reste absolument plus rien qui ne soit pas soumis à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. J'ai été architecte des bâtiments de France, gérer des situations pareilles. Photo suivante. Voilà, ben, gérer des situations pareilles, c'est simplement un chiffre. Aujourd'hui, l'année dernière, en 2018, 30 075 avis ont été donnés par les architectes des bâtiments de France. C'est énorme. Dans le service où j'étais, dans le Finistère, j'avais 5000 dossiers à traiter, 5000 avis par an. Aujourd'hui, le service, on était 12. Aujourd'hui, ils sont 11 et ils ont 9 226 avis. Ils ont donné 9 220 avis. Comment peuvent-ils le faire? Franchement, je me le demande. c'est une surcharge de travail énorme. Et ça continue. La croissance du patrimoine ne s'arrête pas là. Elle continue et elle va très 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 loin. Il y a une demande. Qu'est-ce qu'on va faire ? La demande sur les églises. La demande sur... Enfin bon, je vais passer parce que là, je vais aller trop loin. La photo suivante. Voilà. Alors, là, avant de commencer... voilà. Il y a une chose que... On va un peu trop vite sur la photo, mais c'est pas grave. Il y a un petit exercice que je donne. Ça fait 20 ans que je fais de l'enseignement et que demande à mes élèves. C'est de me citer un texte international relatif au patrimoine. Un texte qui va un peu les ouvrir et les sortir de notre système à nous, notre système de protection des monuments historiques. Depuis 20 ans, j'ai un grand blanc dans la salle. Grand blanc, blanc. Ça dure 5 minutes. Personne ne dit rien. Puis à ce moment-là, j'ai un élève qui lève la main et qui dit... La charte de Venise, monsieur. Voilà. Et je réponds, milieu du XXe siècle. Je voudrais un texte récent. Et là, il n'y a rien. Rien. Or, il existe des textes. Il existe des services, des services internationaux. Il existe des structures qui ont pondu des textes. Ici, vous en avez un. Fantastique. Personne ne l'utilise. Je dirais même que la France ne l'a même pas voté. Elle s'est imposée à lui. Bon, c'est la Convention de Faro. Je ne sais pas si vous connaissez la Convention de Faro, mais s'il vous plaît, faites référence à... Elle donne une image actuelle du patrimoine. Elle va nous sortir de notre nombrilisme en matière de patrimoine. Bien sûr qu'on a inventé, la poudre, mais on l'a inventé à la fin du XIXe siècle. Il faut peut-être en sortir un peu. Dans une société de plus en plus mondialisée, la recherche d'attache, d'enracinement répond aux besoins d'appartenance et d'identification des individus. La Convention de Faro aborde la question du pour qui et pourquoi transmettre le patrimoine. Ce sont des questions fondamentales qui, bien sûr, dans les plus patrimoniaux, doivent se poser. Et vous avez des réponses dans ces conventions. Ce texte présente le patrimoine culturel comme une ressource servant aussi bien au développement humain, à la valorisation des diversités culturelles et à la promotion du dialogue interculturel qu'à un modèle de développement économique fondé sur les principes d'utilisation durable des ressources. Il est basé sur l'idée que la connaissance et l'utilisation du patrimoine relèvent du droit du citoyen à participer à la vie culturelle. Photo suivante. Et vous en avez d'autres, je n'en présente que deux aujourd'hui. J'ai mis le texte en anglais parce que le titre, la traduction en français m'a fait hurler. New Life for Historic Cities. En français, ça a été traduit par Une nouvelle vie pour les villes anciennes. Les villes historiques ne sont pas obligatoirement des villes anciennes, confèrent pleines communes et d'autres villes. Voilà. L'UNESCO, alors ça, c'est pas le Conseil d'Europe, c'est l'UNESCO, mais. Pourquoi bouder l'UNESCO ? Enfin, c'est fantastique c'est les textes qu'ils ont sortis, notamment celui-là. L'UNESCO prenait une approche de la gestion des paysages urbains historiques, intégrant les objectifs de conservation et de patrimoine urbain et ceux de développement socio-économique. C'est énorme. Alors ça nous sort de notre tradition où vous avez le ministère en charge de l'urbanisme qui tire à boulet rouge contre le ministère en charge de la culture. Ça se dispute. En haut lieu, je peux vous assurer, je suis un ancien inspecteur général, ça se dispute en permanence. Mais ça, il ne faut pas le dire. Hein. Voilà, elle vise à améliorer la durabilité, je lis la fin, des processus et des projets de planification et d'aménagement en prenant en compte l'environnement bâti existant et le patrimoine immatériel, la diversité culturelle, les facteurs socio-économiques et environnementaux et les valeurs des communautés et des populations locales. Voilà, on est quelque part, on retrouve un peu l'idée... de base du patrimoine commun de la nation avancé par les révolutionnaires à la Révolution française. C'est très curieux de voir qu'on s'en est vraiment échappé. On a fait quelque chose d'un peu élitiste. Et à travers ces textes-là, on le retrouve. Donc, la charte de Venise, c'est bien, mais laissez-la un peu de côté, réservez-la aux monuments historiques. C'est pas... Il y a d'autres textes. Il y a d'autres textes, et inspirez-vous, et qui confortent toute l'action que vous menez sur les plus patrimoniaux. Photo suivante... Vous avez parlé du Québec. Hein. On a parlé du Québec. Lorsque la loi sur le développement du Québec, elle est sortie en même temps que le Grenelle pour l'environnement, 2006 à peu près en même temps. C'est l'article 7 de la loi sur le développement durable. C'est pas la loi sur le patrimoine. C'est le patrimoine culturel constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions, de savoir-faire, reflète l'identité d'une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Voilà, c'est dans la loi sur le développement durable. Pendant ce temps, nous, on faisait le Grenelle. On a fait un petit exercice, c'est Philippe Malek qui l'a fait. Il a cherché combien de fois il y avait le mot culture dans les textes sur l'environnement. Zéro. Architecture, zéro. Patrimoine, zéro. Pas une seule fois. Si, il y a la culture des oléagineux, et puis la culture des je sais pas quoi, enfin voilà. Mais autrement, il n'y a pas. Pas un mot. c'est, montre bien à l'opposition. Pendant ce temps, le Québec, ben voilà, c'est pas pour rien que vous avez dit tout à l'heure, enfin vous, qu'il y avait une certaine avancée. Photo suivante. Bah, à quoi sert le patrimoine aujourd'hui? Quelle est sa fonction, si je puis dire? J'ai rien trouvé de mieux que cette citation de l'architecte Wang Shu, qui est Global Award for Sustainable Architecture, Pritzker Prize, un des plus grands architectes au monde aujourd'hui, qui a tout simplement dit, mais ça sert peut-être à civiliser la modernité par la culture dans un monde de plus en plus mondialisé. Ça me fait dire que peut-être que le plus patrimonial, c'est très bien, mais c'est peut-être, le patrimoine qui va être la base du plus demain. Hein, je pense qu'il faut avoir conscience qu'on va dans un monde de plus en plus globalisé, on va dans un monde de plus en plus en réseau. Hein. J'ai cette chance d'avoir des enfants et je travaille avec eux et qui sont dans ces milieux de tiers-lieux, de Fab Lab, d'espaces de coworking, etc., etc. Et je vois à quel point le monde avance. Et peut-être que c'est François Choët qui disait, excusez-moi, mais là je voudrais vraiment citer, elle disait quelque chose qui est merveilleux. En 2000, elle avait été interviewée par la revue Urbanisme. Elle a expliqué, le siècle de l'urbanisme commence au moment où pour la première fois on se pose la question de l'aménagement global des villes et de leur relation avec le territoire. Et là, il y avait une petite larme. Voilà. Et puis, elle a terminé en disant « Mais ce siècle a effectivement duré un siècle. L'urbanisme, c'est fini. C'est fini. Nous l'avons aujourd'hui quitté pour nous engager dans l'ère de l'aménagement réticulé. L'aménagement en réseau où le territoire va devoir se redéfinir. Et cette redéfinition, ben c'est par la culture, c'est par le patrimoine. C'est pas parce qu'il y a la mondialisation qu'on va parler une langue internationale. On continue de parler français, quelque part. Il y a une culture qui fait qu'on est amené. Le territoire, c'est pareil. Et je pense qu'il y a une montée en puissance par le patrimoine de la culture dans les documents d'urbanisme, au point que, à terme, il est probable que la base soit culturelle. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura plus de sens. Autrement, le sens, il va être autre part. Mais bon, il faudra peut-être 25 ans, 30 ans, j'en sais rien. Mais c'est bien d'avoir un peu de mettre en perspective. Photo suivante. Cette mise en perspective, je travaille sur les tiers-lieux en ce moment. C'est fantastique. Hein. Je vous conseille à tous les gens du patrimoine de travailler sur les tiers-lieux. Il faut partir sur... Parce que... J'ai encore une minute. Quand on parle des tiers-lieux, aujourd'hui, on voit informatique mise en réseau. De toute façon, c'est complètement accaparé par un ministère contre l'autre en général. C'est toujours la même chose. Donc, qui ne voit que la mécanisation. Mais quand on fouille un petit peu, l'origine des tiers-lieux, c'est le lieu unique à Nantes. C'est les Halles Pajol à Paris. C'est les premiers. Hein, voilà, c'est intéressant. Et puis ça, les origines, la base... Ben, c'est les grands squats de la fin des années 2000, c'est les colocations, hein. C'est cette génération qui a fait ses études en colocation et qui a inventé la colocation du travail. C'est tout un système qui a été mis en place. Et puis on n'imagine pas un tiers-lieu dans un fond de galerie de supermarché ou dans un lotissement. Ça ne s'imagine pas. Hein. Vous avez ici des images de tiers-lieux. C'est toujours dans des lieux identifiés, avec une forte identité. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez les grands voisins, vous avez la recyclerie, vous en avez plein. Swenson House, que j'aime beaucoup, parce que alors là, on va encore plus loin. Hein. C'est un tiers-lieu, c'est un espace de vacances-travail. C'est-à-dire que vous travaillez sur Internet hein, pendant un mois, et il vous accueille pendant un mois, avec votre famille, si vous voulez. Vous êtes en bord de mer, dans un superbe bâtiment. Cadre de vie superbe, bon, et puis voilà, on vous offre le haut débit, et puis vous pouvez travailler avec le monde entier dans un site agréable. Des stations de ski, enfin il y a des tiers-lieux comme ça. Bon, dernière photo.
C'est vraiment la dernière.
Ouais, la dernière, c'est fini. Petite cité de caractère, je pouvais pas vous en parler. Ça c'est une image. On a été invité dernièrement à Nankin dans un colloque avec des grandes métropoles. C'était intéressant que l'association des petites cités de caractère ait été invitée avec les grandes métropoles. Le vice-président était avec le maire de Hambourg, avec le maire de Londres, avec le maire de voilà. Et pourquoi? Parce que on travaille en réseau. Alors là aussi c'est complètement nouveau, mais c'est intéressant. On est un réseau de petites villes. On est le banc de poissons qui est à droite. Et puis on travaille voilà. Mais on avait toute légitimité parce que ce que dépense toute l'association des petites cités de caractère en, pour le patrimoine, toute cette énergie, elle est équivalente à l'énergie d'une grande métropole. Donc voilà, et penser comme ça, c'est penser différemment. Et puis c'est peut-être aussi penser les choses dans une perspective qui sera probablement celle de demain. On a fait dernièrement les journées du patrimoine sur le patrimoine du 21e siècle. C'était un peu ridicule parce qu'on se retournait sur le patrimoine du 20e et on pensait que ça allait se prolonger. Je pense que ça ne se prolonge pas. Et tant mieux, parce que je crois que le patrimoine a un grand rôle à jouer demain, justement pour civiliser la modernité par la culture. Merci.
Bon, merci Alain, j'étais persuadé qu'on allait dézoomer de notre sujet avec ta première intervention, mais effectivement là on est vraiment parti à très haute altitude. Non, mais je pense qu'effectivement c'était indispensable parce que ça permet aussi de voir de quoi on parle, enfin quel est le sens aussi de cette patrimonialisation, que ce soit par des outils dédiés ou par de la planification urbaine. Alors, pour le moment, du coup, tu n'as pas tout à fait répondu à ma question un peu triviale, faut dire. Hein, voilà, tu peux te reposer de cette... Oui, mais quand même, voilà, en deux minutes, si tu veux bien quand même donner ton point de vue déjà pour commencer, avant de passer la parole donc aux autres intervenants, sur ce rééquilibrage des forces, j'en parle pas comme si c'était forcément positif et vertueux entre cette nouvelle politique du ministère de la Culture. Et l'impact que ça peut avoir sur les planifications urbaines.
La nouvelle politique du ministère de la Culture, elle est aujourd'hui de se recentrer sur ses fondamentaux dans un mouvement qui est expansionniste. Enfin, je veux dire, dernièrement, les échos, qui n'est pas un journal relatif au patrimoine, titrait sur le patrimoine mondial. On parlait de la baguette de pain, des toits de Paris. Enfin, on naviguait très très haut sur le concept de patrimoine. Et voilà, je pense que le ministère de la Culture aujourd'hui, en tous les cas, n'arrive pas à faire le lien avec l'autre ministère qui est en charge de l'urbanisme. Mais ça va passer. Hein. C'est juste un mauvais moment à passer. Et puis ce qui est très bien, et puis autre chose aussi qui est important, on n'est plus dans le top-down, on est dans le bottom-up. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc c'est vos actions, c'est des actions qui viennent d'en bas. Je vois avec mes petites cités, c'est ça.
Mauvais moment à passer, Grégoire, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette relation entre l'évolution des outils dédiés à la protection du patrimoine qu'Alain vient de rappeler, avec effectivement une succession de lois jusqu'à la loi LCAP, mais qui est quand même aussi la dernière étape d'une histoire législative qui a ouvert la protection des patrimoines aux collectivités territoriales, on partage avec l'État bien sûr, mais aussi à une diversité de patrimoine qui était celle des ZPPAUP et des AVAP, voilà, et dont on peut craindre aujourd'hui, en forçant un peu le trait, que cette étape d'une trentaine d'années se referme, sans jouer le mélodrame, bien sûr. Voilà, donc je voudrais entendre ton avis sur ce sujet.
Alors, si ça n'est qu'une mauvaise étape à passer, wait and see. Et puis on attendra que ça soit mieux. Je pense que c'est plutôt pour nous à la fois une opportunité, une aubaine et une manière de réaffirmer l'importance des expériences des territoires dans l'écriture des lois. C'est-à-dire que j'ai le souvenir au moment de la rédaction de la loi en 2015-2016, j'étais en formation à l'école de Chaillot et on avait eu la chance d'avoir des rédacteurs de la loi qui étaient venus nous voir. On avait le projet de loi qui nous était présenté. Et puis, il y a une petite phrase qui m'avait interpellé, mais que vous avez sans doute tous lu. Les documents d'urbanisme patrimonial devront être dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne. Ça, c'est inscrit dans la loi. On le retrouve d'ailleurs dans la loi aujourd'hui. Excusez-moi. Et donc, nous avions, en jeunes futurs architectes du patrimoine, pensant pouvoir élaborer ces futurs PVAP, interrogé le ministère sur ce qu'ils entendaient par les outils de médiation et participation citoyenne. Et la réponse m'avait surprise. Il nous avait dit, mais en fait, on ne sait pas trop. On attend les retours d'expérience du territoire pour savoir ce qu'on entend vraiment par les outils de médiation et participation citoyenne. Et là, je m'étais dit que finalement, on se faisait une image toujours un peu dramatique de l'État qui arrive avec ses lois où on attend tout de l'État et tout le contenu, y compris de ce qu'ils mettent derrière certaines phrases, alors qu'en réalité, eux aussi sont en attente d'expérience du terrain. Et donc, quand on a vu le glissement qui s'est effectué sur les SPR et sur le fait que la Commission nationale, par exemple, avait comme... Alors non, il faut que je fasse attention parce que je vais être repris par Laurent Mazurier, le directeur des petits territoires. Ça n'est pas la Commission nationale qui... dans sa doctrine, souhaite recentrer les sites patrimoniaux remarquables sur le patrimoine le plus précieux. C'est les agents du ministère, je ne sais pas comment on le dit, la doctrine des inspecteurs du ministère qui souhaiteraient que la Commission nationale recentre les SPR sur le patrimoine précieux. Donc si la Commission nationale se recentre sur le patrimoine précieux et donc empêche même certaines communes de venir présenter leur projet de SPR jusque devant leur, cette instance, eh bien, ça veut dire que nous, sur le territoire, on doit trouver d'autres moyens de réagir, d'autres outils. Alors c'est une opportunité et une aubaine parce que ça nous permet de voir par exemple que la démarche de PLUI, on l'a d'ailleurs évoqué un petit peu hier comme aujourd'hui, quoi de plus intéressant comme outil que le PLUI pour parler de patrimoine territorial ? C'est d'ailleurs la limite des SPR, des AVAP si je veux dire ainsi. Il y a certaines AVAP que j'ai pu élaborer, notamment avec... le bureau d'études pour lequel je travaillais autrefois, UrbanISM, et je me souviens très bien de questionnements qu'on avait qui dépassaient de loin les limites communales. Et on se disait, mais finalement, notre site, notre AVAP à l'époque, répond aux attentes du maire dans sa commune, etc. Mais les enjeux territoriaux de patrimoine qui sont soulevés dépassent de loin les limites communales. Et si on avait pu faire une AVAP intercommunale, probablement qu'on aurait pu mieux répondre à certains des enjeux. Pas tous, mais en tout cas à certains. Cela signifie que dans le PLUI, on a peut-être quelques éléments de réponse sur la façon d'aborder le patrimoine. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais bien que, par rapport à tous les échanges qu'on a eus pendant ces deux jours, on a vu qu'il y a deux grandes conceptions du patrimoine qui n'impliquent pas les mêmes échanges et les mêmes débats. D'un côté, on a toute une batterie d'interventions, dont la dernière en est le témoin d'ailleurs, qui nous explique que le PLU patrimonial, d'une certaine manière, c'est une démarche patrimoniale dans la planification. Alors là, ça veut dire qu'on prend beaucoup de recul sur la notion de patrimoine. On est dans une notion assez large qui consiste à parler plutôt d'héritage et on est tous d'accord pour dire qu'on peut aussi hériter de dettes. Et donc, dans la démarche patrimoniale, la planification, ça consiste à analyser les qualités, les caractéristiques, la substance du territoire sur lequel on travaille et dans une démarche patrimoniale, de voir ce qu'on souhaite plutôt conserver, plutôt valoriser ou plutôt créer parce que du patrimoine, on a parfois besoin de l'enrichir. Ça, c'est la démarche patrimoniale territoriale. Et puis après, il y a l'approche du patrimoine, disons, plus classique dans le document d'urbanisme, qui conduit, mais c'est un des outils, ça n'est pas le seul. On a d'ailleurs assez peu parlé du zonage dans nos échanges, mais dans les PLU, le zonage est un excellent outil pour régler aussi les questions patrimoniales, parfois. Et parfois même, et c'est pas pour faire l'apologie du PLU, enfin, du PLU patrimonial, mais le zonage est parfois plus fort que les secteurs des SPR, il faut le savoir, que les secteurs des AVAP, parce que le PLU a une portée juridique beaucoup plus légitime, notamment sur la question du droit des sols, sur la question des changements de destination. Ça veut dire que, on en revient, et là je vais enfoncer une porte ouverte, que quelle que soit l'approche, qu'on soit dans une démarche patrimoniale ou qu'on soit en train de regarder le patrimoine qu'on juge intéressant d'une commune, finalement l'articulation de la ZPPAUP AVAP autrefois et du PLU était une articulation réglementaire très pertinente, très très pertinente. Et là, j'ai encore eu la chance d'arrêter une AVAP il y a très peu de temps, qu'on a élaborée conjointement avec un PLU. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé que c'était inintéressant. Je dois dire qu'on a adoré jouer avec cette boîte à outils SPR-AVAP, c'est le PLU de Roche-Corbon en l'occurrence, qui est une commune limitrophe de Tours, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans le patrimoine mondial. Et donc, cette articulation des deux s'est avérée très riche. Alors, en conclusion, et c'est ce que je disais en introduction, donc en général, finir sa conclusion par son introduction, c'est pas forcément très bien, mais bon, vous me le pardonnerez, ça veut dire que c'est à la fois une opportunité parce qu'il va falloir qu'on saisisse de l'outil du PLU, et c'est une aubaine pour nous de montrer que finalement, si on considérait tous sur le terrain que l'articulation AVAP-PLU fonctionnait très bien, ça signifie qu'il faut continuer à se battre pour dire au ministère que les PVAP, on va continuer à en faire, et si vraiment c'est une question de sous, qu'ils ne les financent plus, qui laisse la possibilité aux communes de les financer, au moins ça, et qui laisse la possibilité aux communes de décider de les faire, si c'est vraiment une question d'argent, puisqu'on a parlé de l'argent ce matin.
Merci Grégoire. Un discours beaucoup plus optimiste que celui auquel je m'attendais personnellement, mais c'est très bien justement. Enfin, on voit bien les motifs qui justifient ce discours. On pourra, je pense, revenir quand même effectivement sur cette nouvelle orientation telle qu'elle est annoncée, telle qu'elle est déjà pratiquée quand même. Il y a eu quelques dossiers en CRPA de ci, de là, qui n'ont pas été retoqués, mais qui ont même été sabrés dès le départ, par rapport à des extensions, par exemple, d'AVAP actuelles dans le cadre. Voilà. Donc, effectivement, est-ce que de mettre en face un PLU ou un PLUI, j'oublie pas cette liaison communale que tu as soulignée. Mais est-ce que de mettre en face un PLU, mais de plus en plus souvent un PLUI, entre autres par rapport à la nouvelle politique du ministère, voilà, ça a un sens. Je me tourne vers Philippe Schmitt, qui est très très bien placé, bon, à la fois pour voir cette évolution réglementaire dans ses liens entre urbanisme et patrimoine, et entre autres pour les analyser, bien sûr, sous l'angle de l'intercommunalité.
Oui, je suis peut-être bien placé pour être observateur, mais là, je vais dire clairement, je suis un peu gêné. D'abord parce que je sais que là, je suis devant un cénacle d'initiés et de professionnels du patrimoine bien plus aguerris que moi, donc beaucoup d'humilité dans ce que je vais dire. Et deuxièmement, je ne sais pas si je suis bien utile parce qu'il a dit tout ce qu'il y avait à dire. Voilà. Alors, en gros, je souscris complètement à cette vue-là. Non, pourquoi je dis ça sans plaisanter Moi, je vais mettre l'accent là. Il y a beaucoup de choses à dire. Si je voulais rebondir sur ce qui a déjà été dit, je vais mettre l'accent sur les histoires de PLU Interco. Donc, le réseau national pour lequel je travaille, qui est le réseau des communautés de communes, agglomérations et métropoles de France, a milité pendant très longtemps pour qu'on aille vers ce PLU intercommunal. Pas dans une logique de dessaisissement des maires, mais dans une conviction qu'au regard de la manière dont fonctionnent les enjeux les territoires, il y avait une absolue nécessité de coopération, d'articulation des communes entre elles dans leur communauté. Et en gros, le schéma, c'est tout simplement de dire aux élus qui croient que c'est une perte de compétences, que c'est un dessaisissement, que c'est un amaigrissement de toute la commune, etc. Nous, c'est au contraire de dire, mais non, c'est pas contre la commune, bien au contraire, la communauté n'est rien sans la commune, parce qu'elle procède des communes et elle ne vit que par les communes. Et c'est au contraire tout un enjeu de monter en compétences et de monter en capacité politique à piloter les sujets tels qu'ils se présentent dans leur complexité aujourd'hui, complexité qui est bien plus dense, bien plus importante qu'elle ne l'était il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il n'y a qu'à regarder la manière dont se sont développés les territoires. Et ce, pour répondre à une foultitude d'enjeux, les enjeux d'aujourd'hui et ceux de demain, il faut que ce qu'on appelle le bloc local, l'articulation des communes et dans leur interco, soit en mesure d'être au rendez-vous des enjeux. Et je pense là, évidemment, à la transition énergétique, tous les enjeux de transition environnementale, les problématiques d'adaptation au changement climatique, les problématiques de risque. J'ai beaucoup aimé, je ne sais plus qui l'a dit, je suis fini par être perdu, hein, par le risque, on peut revenir par la bande, justement, aux questions patrimoniales. Ça, et je crois que le patrimoine, il va aussi revenir, peut-être un peu se décloisonner et revenir aussi par différents sujets qui trouve place dans nos sujets de planification urbaine. Alors, maintenant qu'on a dit ça, c'est la théorie, en disant, allez, on va faire ensemble, on va être plus fort, on va renforcer la conduite politique de la stratégie urbaine en adaptant l'échelle de la planification à l'échelle de fonctionnement des territoires. Il faut qu'on réussisse ça. Bon, une fois qu'on a dit ça, on est... Soit on est extrêmement optimiste, et donc je rejoins complètement les propos qui ont été tenus, soit aussi on regarde la chose avec un peu de prudence et on entend les grincheux, parce qu'il y a des grincheux. Enfin, des grincheux, c'est beaucoup dire, mais évidemment, on a une crainte qu'il y ait une sorte de déperdition de l'engagement d'élus municipaux sur le patrimoine qui avait que dans cette grande interco. Alors bien sûr, il est, même moi je le dis, mais là vous n'êtes pas obligé d'aller le crier sur tous les toits, mais on sait bien qu'il y a 15 ou 20% des communautés qui ne sont quand même pas faciles à manœuvrer et à organiser parce qu'elles sont devenues assez grandes. Attention dans vos réflexions à ne pas focaliser sur ces communautés dites XXL, hein, il y en a aussi beaucoup d'autres. Voilà, et qui, voilà, aujourd'hui on entend, on peut très bien entendre les élus qui craignent que le patrimoine et sa protection soit diluée dans, à la fois géographiquement et à la fois dans une foultitude de problématiques et qu'on ne s'y retrouve pas. C'est pourquoi d'ailleurs on a travaillé, et je tiens à saluer l'association Cité-Cité Remarquable, avec laquelle on a un peu bossé, notamment au moment de la loi CAP, et puis après dans des notes explicatives sur la relation commune à la communauté dans la protection du patrimoine, pour que on ait au moins des quelques éléments législatifs, c'est les capacités de déléguer à la commune, le fait qu'elle conduise les études sur les PAVAP, c'est les possibilités, les notions d'accord, enfin voilà, bon, histoire de dire, mais c'est pas contre la commune, bien au contraire. Et donc, en gros, pour faire clair, c'est soit on se dit mais on va perdre tout ce qui a été construit ces 20 dernières années dans la relation avec l'État, justement, l'engagement politique local pour la protection du patrimoine, etc. On va le perdre dans ce vaste ensemble, parce que le vaste ensemble, il n'en aura rien à foutre de ce qui est sur ma commune. Voilà. Soit on se dit, au contraire, mais nous allons pouvoir mutualiser un peu d'intelligence, s'ouvrir à la manière dont on regarde dans les autres communes, essayer de construire des services qui puissent justement apporter des notions d'ingénierie justement au moment où on a tout le sujet, entre guillemets, du retrait de l'État sur tous les chantiers, y compris celui de la protection du patrimoine, et ce que vous venez de rappeler en atteste. Moi, je suis évidemment convaincu que un bienfait, le PLU Interco, et pour être honnête, moi j'en ai été un des fervents militants au nom de mon conseil d'administration pendant 10 ans, et nous avons beaucoup travaillé avec les ministres, les ministères, les parlementaires, les machins, etc., pour qu'on en arrive là. De notre point de vue, c'est absolument indispensable qu'on change d'échelle de planification. Donc aujourd'hui, la moitié de la France est dans cette dynamique. Vous avez 1200 communautés de communes agglométropoles en France. Il y en a 600, c'est pile 50% qui sont aujourd'hui engagés dans une démarche de PLU interco. On en a beaucoup parlé. En gros, pour un ordre de grandeur, je pense qu'en cette fin d'année 2019, début 2020, c'est-à-dire avant les élections municipales, on devrait arriver à l'approbation de 350 PLU interco qui sont aujourd'hui en cours. Donc ça fait quand même des grosses masses. Bon, il y a la deuxième partie de la France qui aujourd'hui n'est pas du tout concernée par ce sujet parce qu'ils ont activé ce qu'on appelle la minorité de blocage, c'est-à-dire le droit aux communes, sous réserve qu'elles représentent au moins 25% des communes et 20% de la population, c'est-à-dire le droit aux communes de s'opposer au transfert automatique de cette compétence à la communauté. Et cette minorité de blocage a été activée dans certains territoires. Mais on sait d'emblée qu'après 2020, d'ailleurs la loi Allure nous oblige à remettre le débat sur le métier après les élections municipales, on sait que beaucoup d'élus passeront au PLU interco. Ils peuvent s'y opposer, mais je crois que maintenant tout le monde commence à bien comprendre qu'en effet, la planification à la seule échelle municipale n'était pas obligatoirement la plus adaptée pour répondre, un, aux enjeux du territoire, et deux, à la complexité croissante des PLU, sur tous les sujets. L'exercice de planification est quand même de plus en plus compliqué. Je perds le fil de mes idées.
Sinon, je remets.
Non, je voudrais juste rebondir sur un autre truc. Ouais, voilà. Nous, dans notre sujet, techniquement, quand il y a transfert de la compétence PLU, voilà, il y a transfert de tous les documents d'URBA, donc le PSMV. Donc, enfin voilà, c'est tous les documents d'urbanisme PLU. Et documents en tenant lieu. Et donc, toutes les questions de protection patrimoniale, elles sont embarquées par cette compétence PLU. Mais quand on regarde de près, je pense que c'est intéressant qu'on s'y arrête. Dans le Code général des collectivités territoriales, on n'a pas de compétence patrimoine. on ne dit pas quelle collectivité est responsable. Le mot patrimoine, il n'apparaît pas dans le CGCT. Ce qui apparaît dans le CGCT, c'est la notion de culture, mais sous-entendu au sens service culturel ou équipement culturel. Donc on a un débat sur la culture dans l'association commune-communauté. On a un débat libre de décider si on transfère ou non les compétences dites culturelles. Elles sont définies dans le CGCT. Patrimoine, c'est quoi ? Nous, là, aujourd'hui, on greffe ça à notre discussion de planification, parce que c'est notre sujet, mais ça peut avoir des acceptions assez larges. En fait, ce n'est pas défini dans notre organisation locale. C'est comme, par exemple, la biodiversité. Biodiversité, c'est une de nos responsabilités, mais ce n'est pas défini. Un tout petit peu plus que patrimoine, parce que le Code général des collectivités territoriales flèche la région comme chef de file sur la problématique de biodiversité, parce qu'on la responsabilise dans la schématologie régionale sur la biodiversité. Mais c'est comme paysage. Qui est responsable de paysage ? Bah, tout le monde est un peu responsable de paysage. Il y a juste une petite responsabilité particulière des départements qui peuvent et qui doivent élaborer les schémas départementaux paysage, mais c'est tout le monde paysage. Et donc la question pour nous est de savoir, patrimoine, c'est quoi ? C'est une compétence ou c'est une posture ? Moi je dis que ce n'est pas une compétence, c'est que la notion de patrimoine, il faudrait qu'elle soit, de mon point de vue, voilà, inhérente à l'exercice d'un mandat local. C'est une responsabilité qui devrait irriguer tous les élus locaux, avec des notions de densité, d'intensité variables. Mais on devrait, c'est comme la biodiversité, on devrait comprendre que biodiversité est parfaitement compatible avec toute notion de développement de territoire. On peut rendre ça compatible. On peut aménager avec de la transparence écologique, etc. On sait faire. Donc ça veut dire qu'en gros, je considère que, par exemple, par essence, la biodiversité devrait être un réflexe de tout élu. Le patrimoine, c'est pareil. Le patrimoine, c'est pareil. Sauf que la question est de savoir si je dois... excusez-moi, je vais couper. Je termine. Mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur la biodiversité, sujet que je connais bien. On voit dans bien des territoires un élu... Même, parfois même pas VP, hein, quelqu'un à qui on a délégué une sorte de responsabilité biodive. Mais dans certains territoires, il faut admettre, cet élu, souvent de deuxième rang, si je puis dire, sans les vexer, voilà, motivé, sincèrement motivé de deuxième rang, il piaffe un peu d'impatience, et au bout d'un moment, on lui dit, bon, allez, ok, t'as qu'à faire un atlas de un ABC, mais maintenant un atlas de la biodiversité communale mais ou intercommunale. Et puis, parfois, ça finit aussi. Le doc, il est rangé sur l'étagère et puis on n'y touche plus, quoi. Vous voyez ? Le risque, et le grand risque, c'est que le patrimoine, sur certains aspects, ça devienne un peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, on est quelques militants du patrimoine dans la collectivité qui s'agite et puis que le reste, la classe politique, ne se mobilise pas dessus. Tout l'enjeu pour moi à travers le PLU Interco, c'est que justement, on ait à travers tout ça l'opportunité de sensibiliser et de faire monter en gamme toute l'appropriation politique sur ces sujets-là qui sont éminemment transversaux, que son paysage, que son patrimoine, que son biodiversité. Donc de mon point de vue, il s'agit qu'on dépasse les sujets de qui fait quoi avec la compétence et tout ça pour qu'on ait tout simplement... un travail collectif, en tous les cas, nous, c'est comme ça qu'on l'entend, pour dire que c'est une question de posture d'élu. C'est qu'il faudrait que ça rentre uniquement, que ce soit intrinsèque à la fonction d'élu local. Voilà.
Ouf, bon. Alors, oui, bien sûr, bah c'est très bien, effectivement. Et on peut penser que certains élus communaux, déjà, seront effectivement de bons apôtres en la matière au sein des assemblées, mais bon, pour autant qu'ils soient audibles. Et c'est pas forcément la question du nombre de communes au sein d'Interco qui est problématique. Hein. On en a déjà parlé plusieurs fois, effectivement, aussi la sensibilité patrimoniale, par exemple. Alors, je vais passer la parole à Noé, mais encore une fois, voilà, n'hésitez pas aussi à appeler la parole parole si vous voulez réagir à un propos ou un autre. On a déjà rassemblé dans un même sujet cette première thématique de du panel des outils aptes à protéger les patrimoines de la Rolls-Royce qui est censée être le PSMV jusqu'au PLU patrimonial, jusqu'à cette question transversale de l'intercommunalité à la fois dans les outils dédiés au patrimoine mais aussi donc dans le PLU. Noé, je te laisse la parole sur...
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce risque d'un jeu perdant de vases communicants entre les SPR et le plan local d'urbanisme patrimonial, avec un resserrement, semble-t-il déjà avéré, des sites patrimoniaux remarquables au nom d'un plan local d'urbanisme patrimonial, mais qui ne présente quand même pas une équivalence de protection, quand bien même on arriverait de manière créative à parvenir à des niveaux de protection par le zonage assez efficaces. Alors vous avez raison aussi de dire quand même qu'on peut être créatif, qu'on peut en profiter pour faire de la montée en gamme généralisée à ce niveau-là. Mais ce sur quoi je pense que vous aviez particulièrement raison, Grégoire, c'est de rappeler que ce resserrement des sites patrimoniaux remarquables, il procède d'abord et avant tout d'une doctrine administrative, d'une doctrine d'inspecteur, d'une doctrine d'une sous-direction et... qu'évidemment, une doctrine administrative ne fait pas la loi. La loi n'appartient pas à l'administration. Et même l'interprétation de la loi n'appartient pas à l'administration. Et que, de ce point de vue, on peut certes être créatif en investissant les autres outils, mais on pourrait aussi tout simplement contester cette doctrine administrative. Et que tous ces refus, peut-être, qui émergent ou qui vont émerger de mobilisation des sites patrimoniaux remarquables pour être contesté devant un juge. Alors, c'est une réponse bête et méchante de juriste, mais je crois qu'il y a une vraie porte de sortie là-dessus. Ça peut être contesté, ces décisions de refus, soit si le motif, c'est un motif qui ne figure pas à l'article 631-1 du Code du patrimoine pour erreur de droit, soit pour erreur manifeste d'appréciation. Tout comme on a réussi à le mobiliser parfois en matière de monuments historiques, erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des critères du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques, on pourrait tout à fait faire valoir la même chose dès lors que la loi ne prévoit pas des conditions si élitistes que cela, si vous reprenez encore une fois les formulations du Code du patrimoine s'agissant des sites patrimoniaux remarquables. Alors effectivement, cette formule de remarquable nous met peut-être un peu dedans, mais pas tant que ça si on reprend les travaux parlementaires, bien sûr. De sorte que, en réalité, une doctrine administrative, encore une fois, ne fait pas la loi. Un juge peut tout à fait interpréter différemment les choses et on pourrait, de ce point de vue, par une stratégie contentieuse, obtenir un desserrement de ce qui peut être en train de se resserrer dans la mobilisation de l'outil site patrimonial remarquable. En tout cas, moi, je serais pas très partisan d'une politique de genre.
Alors, peut-être l'ancien inspecteur général des patrimoines peut se prononcer sur le sujet, puisque...
C'est pas du refus, c'est du découragement. Je vois avec les maires des petites cités de caractère, c'est un découragement sur un plus ou moins long terme, c'est-à-dire qu'on explique gentiment, d'homme à homme, de femme à femme, que bon, ben non, vous avez pas le niveau, mais on va pas l'écrire. C'est un problème.
C'est peut-être là que les associations peuvent reprendre le flambeau. Si l'élu ne veut pas se positionner en première ligne, l'association peut être provoquer la décision de refus et ensuite l'attaquer, tout simplement.
Tout à fait. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est là.
Eh bien, je vous propose d'applaudir nos intervenants, voilà, nos participants. Mais... Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup tous les quatre d'avoir contribué à cette table ronde, je pense tout à fait intéressante. Je dis quand même, ce n'est pas une conclusion, mais quelques mots pour remercier aussi tous les participants à notre colloque de clôture de notre programme de recherche, parce que là, on est parti bien sûr sur des thématiques qui nous ont parfois un peu éloignés du sujet d'origine, qui était donc la question de la planification urbaine, mais elle était sous-jacente dans chacun des sujets. Voilà, donc on vous remercie d'abord d'être venus nombreux à ce colloque de clôture, parce que ça aurait pu être un, et ça l'est peut-être d'ailleurs, un non-événement scientifique. nous étions partis à la recherche du PLU patrimonial. Et donc, je disais en introduction hier, j'espère que ce n'était pas à la recherche du temps perdu. Donc, j'espère déjà que cette journée et demie, ces deux jours de colloque, ce n'était pas du temps perdu pour vous. N'hésitez pas à nous faire des retours par mail, par exemple, si vous le souhaitez. Et puis, continuez à échanger. Le programme s'arrête officiellement à la fin du mois de septembre. C'est la fin de notre convention avec l'ANR. Mais je pense que ce sont des thématiques qui vont encore animer une partie de mes collègues et puis de mon activité scientifique. Donc voilà, je vous rappelle, comme Mathieu Gigot vous l'a présenté hier, que donc nous avons des ressources en ligne disponibles, hein, donc qui vont de la chaîne vidéo que Mathieu vous a présentée jusqu'aux documents que vous pouvez encore reprendre si vous avez un peu de place et si vous pensez que c'est utile de le faire dans vos sacoches, donc le livret éclairage pour l'action, le 4 pages, voilà, donc ils sont aussi téléchargeables si vous n'avez pas la possibilité d'en prendre. Et puis au nom du développement durable, c'est pas la peine effectivement d'avoir voilà, beaucoup de documents papier, mais voilà, donc encore merci, je sais